Bonjour à tout le monde. Le chauffage fonctionne. Il y a une personne ce matin qui est présente et c'est la première fois que cette personne met ses pieds dans une église protestante évangélique. Et cette personne a accepté que je fasse une petite interrogation. Donc je vous demande de bien vouloir écouter cette interrogation en direct et en public.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, il paraît que tu as la foi.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu crois?
Ben, je crois qu'il y a un Dieu.
Oui, et quoi d'autre?
Je crois ce que tous les croyants croient, et en plus, je crois la même chose que l'Église.
D'accord. Et tu parles de quelle Église?
Ben, l'Église, tu sais, le bâtiment en face du supermarché, et ben, je crois comme eux.
D'accord, mais qu'est-ce que l'Église croit au juste?
Alors là, ne pose pas trop de questions, je suis pas une théologienne, moi. Moi, je crois en l'homme, bon, intelligent, gentil, et je sais que tant qu'il y a des hommes sur la planète, alors l'avenir de la Terre est assuré. Voilà en résumé ce que je crois, et je trouve que j'ai la chance vraiment de croire ça.
Merci. Tu peux... Je vais dire sortir. Hey, ça va.
J'ai la chance de croire, d'avoir la foi. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi? Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Je vais vous lire une inscription qui était sur la tapisserie d'une maison d'une famille juive qui était déportée et gazée. Voilà ce qui est écrit sur le mur de la maison quand on a découvert la maison vide. Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Je crois à l'amour même quand je ne le vois pas. Je crois en Dieu même quand il se tait. C'est ça la foi? Je crois qu'on touche du doigt ce que c'est la foi. J'aimerais que nous lisions quelques versets dans la première lettre de Paul à Timothée. On a déjà lu ou entendu un verset du premier chapitre et on va lire d'autres versets dans 1 Timothée chapitre 1. J'aimerais parler un peu de la foi ce matin. La foi selon 1 Timothée. Qu'est-ce que c'est la foi? Comment définir la foi? Est-ce que nous avons la foi? Juste pour vous dire que la première lettre de Timothée fait partie de ce que nous appelons les épîtres pastorales. Il s'agit de 3 lettres qui ont été écrites par l'apôtre Paul à 2 jeunes pasteurs. Le premier s'appelait Timothée qui habitait à Éphèse et le deuxième s'appelait Tite qui habitait sur l'île de Crète. Et Timothée a reçu 2 lettres et Tite en a reçu 1. Et dans ces lettres, l'apôtre Paul écrit pour que ces 2 jeunes puissent savoir comment structurer l'Église locale. D'ailleurs, on y touche un peu ce matin avec la nomination de l'ancien. Comment consolider le témoignage dans l'Église locale? Comment organiser les activités de l'Église locale, c'est-à-dire l'enseignement biblique, la prière, l'évangélisation, le travail social, les œuvres sociales, et aussi comment résister à l'opposition? Parce que pensez avec qu'au premier siècle, il y aurait de plus en plus de tolérance. C'est-à-dire, en français courant, de plus en plus d'intolérance envers le message et la foi chrétienne. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous voyons exactement la même chose. De moins en moins de tolérance envers ce que nous croyons et ce que nous faisons. Alors, dans 1 Timothée, il est très souvent question de la foi. Si vous aimez les statistiques, il y a 112 versets dans 1 Timothée, et dans 17 versets, on a la foi. Alors, si vous êtes matheux, vous avez calculé tout de suite dans votre tête que 17 sur 112, ça représente grosso modo 15%. Donc, 15% des versets dans 1 Timothée contiennent le mot foi ou la foi. Et si vous allez me poser une question, mais David, dans 2 Timothée, qu'en est-il? Est-ce qu'on parle de la foi dans 2 Timothée? Eh bien, dans 2 Timothée, pour ceux qui s'intéressent, il est 83 versets, et dans 8 versets, il est question de la foi. Ça représente, si je calcule dans ma tête tout de suite devant vous, sans calculette, ça représente... J'ai fait mes devoirs. 9,6%. J'aimerais lire à partir du premier verset, du premier chapitre, de la première lettre de Timothée. À Timothée, pardon. 1 Timothée 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le verset 18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que Dieu t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. La foi. Il est question de la foi dans 5 versets que nous venons de lire. Il est important de penser à la foi parce que Paul en parle et il est important de penser à la foi pour savoir, mais est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous gardons la foi? Est-ce que nous avançons dans la foi? Est-ce que nous agissons par la foi? Il est aussi important de vérifier que nous savons comment ne pas nous éloigner de la foi. Comment ne pas nous détourner de la foi. Et est-ce que nous savons si nous allons mourir avec foi et dans la foi? La petite phrase « la foi » peut se comprendre de 4 façons différentes. Par exemple, il s'agit de la confiance en Dieu. Point. La confiance pour le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés. La foi peut signifier aussi le fait d'être fidèle envers Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les coups qui nous font mal. La foi peut signifier aussi la vie chrétienne dans sa totalité. Et la foi aussi signifie la doctrine ou l'enseignement biblique. Je lis un verset de Jude. « Mes chers amis, je vous écris afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise aux saints. » C'est-à-dire pour défendre la doctrine biblique. C'était d'actualité au premier siècle. C'est d'autant plus d'actualité à notre siècle, à notre époque. On doit défendre la foi, c'est-à-dire le message, la doctrine, le contenu de ce livre. Alors, verset 2, nous avons lu, Timothée, tu es mon enfant dans la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, soit Timothée s'est converti par le moyen de l'apôtre Paul, ou soit Paul, qui était plus âgé que Timothée, lui parle comme un père spirituel. Mon enfant dans la foi. On a cette expression au verset 2 et au verset 18, nous avons lu Timothée, mon enfant. Un terme d'affection. Un enfant dans la foi. Au verset 4, nous avons l'expression le projet de Dieu s'accomplit dans la foi. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu avance à condition que les chrétiens engagés fassent confiance à Dieu. On peut dire, l'œuvre de Dieu à l'Erusonara, Lyon 8e, va avancer, va continuer, va progresser, à condition que nous fassions confiance à Dieu. Si on ne fait plus confiance, l'œuvre va disparaître. Le projet de Dieu avance par la foi. Donc il s'agit d'avoir une foi persévérante dans ce que nous faisons, dans nos activités, dans notre témoignage, dans notre vie de prière. La persévérance. Et puis il est question aussi d'une foi sincère. Verset 5. Un cœur pur, une conscience bonne et une foi sincère. Une foi sans hypocrisie. Être un chrétien sans hypocrisie. Être un chrétien sincère. Être un chrétien avec une foi sincère revient à dire être un chrétien avec une confiance réelle malgré les difficultés. Une confiance inébranlable malgré tout ce qui nous tombe dessus. Parfois on a l'impression que une tuile m'est tombée dessus. Parfois on a l'impression que c'est toute la charpente qui nous tombe dessus. Merci Seigneur, nous avons la foi que ça ne va pas nous arriver ce matin. Peut-être à partir de 13h, ça va nous arriver. Mais dans les difficultés, est-ce que nous avons confiance dans le Seigneur? J'aimerais vous lire l'extrait d'un email qu'on a reçu cette semaine d'une chère amie qui est très malade, qui est sortie de l'hôpital après une énième opération. Et elle dit ceci. Dans 3 semaines, le traitement va commencer avec 4 séances de chimiothérapie. Je vous avoue qu'affronter la chimio me fait très peur. Mon moral reste mitigé. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est bof. Surtout la nuit. Les craintes s'amplifient. Je prie. Je me dis que Dieu est là. Que Dieu ne dort pas. D'ailleurs, il ne s'est jamais endormi. Il est là. Même si par un moment, je n'arrive pas trop à le voir. Intéressant. Cet ami termine son courrier avec une citation de Jean Calvin. « Rien ne console plus fortement que la certitude d'être enveloppé par l'amour de Dieu au cœur de la détresse. » Être enveloppé par l'amour de Dieu au cœur de la détresse. La foi réelle, une foi sans hypocrisie, une foi persévérante et conquérante. Nous avons lu aussi versets 18, 19 et 20 où il est question encore de la foi. Il est question de garder la foi. Timothée, garde la foi. Ne perds pas la foi. Alors on peut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire garder la foi? Là, j'ai 2 propositions de réponse. Garder la foi, c'est toujours compter sur le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient nos sentiments, toujours compter sur le Seigneur. Continuer à marcher avec le Seigneur. On chante parfois, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est ça, garder la foi. Croire ce que Dieu nous dit, parce que c'est Dieu qui nous le dit. C'est ça la foi. Garder la foi. Mais garder la foi signifie aussi rester fidèle à la doctrine ou au message biblique. Rester fidèle. Et la doctrine biblique, le message biblique, je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de mon message, est toujours, toujours attaqué, critiqué. Il y a des uns qui essaient de contredire et d'autres qui essaient de diluer le message. Et pour ceux qui vont sur certains sites internet qui sont chrétiens ou plus ou moins chrétiens, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de la doctrine de la prospérité, qui dit, en bref, un chrétien qui a la foi doit toujours être en bonne santé et doit toujours être riche. Il ne doit jamais être malade, jamais être pauvre. La doctrine de la prospérité, ça plaît aux uns, mais ça ne plaît pas à Dieu, parce que ce n'est pas une doctrine biblique. Et si nous voulons garder la foi, nous devons rejeter ces idées-là et d'autres idées qui sont parfois même pires que cette idée-là. Paul dit à Timothée, Paul nous dit de garder la foi et de garder, de rester fidèle au message biblique. Quelles que soient les pensées et les paroles de ceux qui nous critiquent, de ceux qui nous attaquent, de ceux qui se moquent de nous. Restons fidèles à la parole de Dieu. Paul dit à Timothée ici, toi, tu gardes la foi, mais ne fais pas naufrage de la foi, comme certains. Il parle d'Alexandre et d'Hyménée. On ne connaît pas grand-chose au sujet de ces deux messieurs, mais Paul dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont coulé. Ils se sont éloignés de la vérité. Ils ont abandonné le Seigneur. Le pourquoi et le comment, on n'en sait rien. Mais la réalité, c'est que Paul dit, ils ne vivent plus comme des chrétiens. Plus loin, au chapitre 6, d'ailleurs, on va lire ces versets, Paul parle d'autres personnes qui ont fait un naufrage par rapport à la foi. Chapitre 6 de 1 Timothée, si vous voulez bien, je lis à partir du verset 10. En Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi. Ils se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Et au verset 20, cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Au chapitre 5, Paul parle de manière semblable. Si je lis cela, c'est pour que nous puissions nous encourager à rester attachés à la foi biblique et au message biblique. Parce que c'est une chose terrible de se détourner de la foi, de s'égarer loin de la foi, de faire un naufrage par rapport à la foi. Alors si vous êtes en train de demander dans votre cœur, mais David, comment est-ce que je peux faire pour ne pas m'éloigner de Dieu? Comment est-ce que je peux faire pour ne pas couler, malgré, avec toutes les pressions et les oppressions? Eh bien, je ne vais pas répondre à cette question. Mais je vais laisser le prêtre Paul y répondre. Parce que sa réponse sera mieux que la mienne. Alors, je vous invite à trouver chapitre 4, où Paul répond à cette question. En Timothée 4, verset 6. Il vient de parler des fausses doctrines et Paul dit, en exposant ces fausses doctrines aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Donc, si on pose la question, que faire pour ne pas s'éloigner de la foi? La réponse, se nourrir des paroles de la foi. Se nourrir du bon enseignement. Autrement dit, lire la Bible. J'aime la Bible car elle me dit tout ce que je dois faire. J'aime la Bible car elle me dit de bien aimer mon frère. Quand on enseigne ce chant pour enfants à deux frères qui sont petits et qui se battent tout le temps, ce n'est pas le cas dans notre famille, bien sûr, mais de bien aimer mon frère ou de bien aimer ma sœur. Mais j'aime la Bible. Est-ce que nous aimons la Bible? Parce que c'est ça, les paroles de la foi. Est-ce qu'on se nourrit de la Bible? Est-ce que nous avons bon appétit? Il est évident, quand vous me voyez, vous savez que j'ai un bon appétit. Mais, est-ce que j'ai un bon appétit pour des choses spirituelles? Vous savez, quand on vient à table, parfois on dit, bon appétit. Quand on vient au culte, on devrait se dire, bon appétit. Parce qu'on vient pour donner, mais aussi pour recevoir, pour se nourrir de la parole de Dieu. Si vous voyez quelqu'un en train de faire son culte personnel, dites-lui bon appétit. Parce qu'il s'agit de nourriture spirituelle. Malheureusement, beaucoup de chrétiens souffrent de la malnutrition. Et c'est un choix. La plupart de ceux qui souffrent de la malnutrition physique n'ont pas choisi. et souffrent à cause des autres. Mais la plupart des chrétiens, je ne dis pas tous, parce que certains sont en prison pour leur foi, mais la plupart des chrétiens qui souffrent de malnutrition spirituelle, c'est parce qu'ils choisissent de ne pas lire la Bible. Ils choisissent de ne pas venir au culte. Ils choisissent de bouder les études, les rencontres, et surtout la lecture personnelle, ou la lecture de bons livres. Et là, les gens vont disparaître. Vont s'affaiblir. Parce qu'ils ne se nourrissent pas. Si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, eh bien, cela va se voir. Et nous serons bénis, et d'autres seront bénis, grâce à la nourriture que nous recevons et que nous partageons avec d'autres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le capitaine Vallée, un officier français, a été emprisonné à Nice. Et dans la cellule où il était, il voyait partout des gens qui avaient gravé des noms, des dates, ou le nom d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, avant d'être torturé et de mourir. Et le capitaine Vallée savait qu'il allait être torturé pour livrer des noms aux nazis qui étaient là pour le torturer. Et il avait décidé de se suicider. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas livrer des noms et qu'il allait mourir une mort lente et très très douloureuse. Donc il a décidé de se suicider, de se couper les veines. C'est facile, à l'époque, il avait tout ce qu'il fallait dans sa cellule. Et littéralement, des minutes avant de se couper les veines, ses yeux sont tombés sur quelque chose gravé sur le mur devant lui. Et il voit le nom, Donald Kasky. Il dit ça, c'est un étranger. Et puis il voit, sous le nom de Donald, les paroles suivantes. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, ton Sauveur. Il lit ces paroles et il reste figé devant ces paroles. Il les relit. Et comme une épée dans son cœur, au lieu d'un couteau sur ses veines, une épée dans son cœur, Dieu lui parle. Et cet homme-là qui ne savait rien de la religion reçoit ces versets d'Ésaïe et prie pour la première fois dans sa vie. Et se confie en Dieu, son sauveur. Il décide de ne pas se suicider. Il est torturé, certes, et après quelques jours de torture, on l'envoie dans une autre cellule, dans une autre prison, dans une autre ville, dans le Midi. Il arrive dans cette autre prison et il partage une cellule. Et en discutant avec le monsieur, il se rend compte que le monsieur est un étranger. Et il dit, comment vous vous appelez? Et le monsieur dit, je m'appelle Donald. Et il a failli mourir sur place, hein? Le cœur a failli lâcher. Donald, comment? Et il explique, Kasky. Il dit, mais écoutez, moi j'ai lu quelque chose qu'un certain Donald Kasky avait écrit dans telle prison, à Nice. Et Donald a dit, bah oui, c'est moi. Il a cité par cœur ce qui était sur le mur. Et les deux frères en Christ ont pu prier ensemble, s'encourager ensemble et s'évader ensemble. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont en prison pour leur foi. Mais si je raconte cette histoire, c'est tout simplement pour dire que Kasky, Donald Kasky, avait appris des versets bibliques. Il n'avait pas une Bible dans sa prison. La Bible lui était confisquée. Il avait appris des versets bibliques. Dieu avait écrit sur son cœur et sur sa mémoire les versets bibliques. Et au moment où il le fallait, il a pu écrire sur le mur, ne sois sans crainte, je suis avec toi, dans le feu, dans l'eau, dans la cellule, je suis là. Puisqu'il avait l'habitude de se nourrir, ce non-chrétien a pu se nourrir aussi et se convertir. Si nous nourrissons notre foi, cela nous aide à garder la foi. Cela nous aide à combattre pour la foi. Cela nous aide à défendre la foi. Et cela nous aide aussi à partager notre foi. Et quand on partage la foi, bien sûr, il ne s'agit pas de partager un gâteau. Si je partage un gâteau, je vous donne une part, mais il manque une part pour moi. Mais quand on partage la foi, ce n'est pas dans ce sens-là. On partage la foi, on répand la foi, on explique la foi. Et d'autres peuvent être nourris si nous arrivons à nous nourrir nous-mêmes. Alors, est-ce que nous avons un bon appétit? Je vous encourage à lire, à relire, à relire, à relire, à méditer, à mémoriser. Pas tout ce livre, ce serait impossible, mais une bonne partie, c'est possible. Soyons des hommes et des femmes qui aimons la parole de Dieu. Et si nous nous nourrissons, nous allons refuser la médiocrité de notre vie chrétienne. Nous allons grandir en Christ et nous aurons la force pour résister tous les jours et pour combattre le bon combat de la foi. Je termine avec une dernière citation qui vient d'un livre qui est un des best-sellers dans le monde évangélique. Ça s'appelle « Tout pour qu'il règne ». Et voilà ce que dit l'auteur. « La foi est une entière confiance en Dieu, une totale dépendance de lui, ce qui donne une parfaite sécurité. » La foi est une entière confiance en Dieu, une totale dépendance de lui, ce qui donne une parfaite sécurité. Que le Seigneur nous aide à pas seulement avoir la foi, mais à vivre par la foi et à montrer notre foi. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le don de la foi. Nous te remercions car tu es digne de toute notre confiance. Et nous te prions de nous aider à nous nourrir des paroles de la foi. Aide-nous à grandir dans la foi. Aide-nous à partager notre foi avec d'autres personnes. Seigneur, tu vois le monde qui se meurt autour de ce bâtiment et autour de nous. Et nous te prions de nous aider à être des témoins d'une manière ou d'une autre. Mais aide-nous aussi à ne pas être appauvri ou être mal nourri. Aide-nous, Seigneur, à avoir bon appétit de ta sainte parole, car nous savons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci pour ta parole. Aide-nous à l'aimer. Aide-nous à grandir dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.